Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Vous êtes sur RTL, vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15. RTL Soir avec à la une, un jeune de 27 ans tué par balle à Colmar après avoir manifesté sa colère contre un rodéo urbain. Le conducteur du deux-roues activement recherché ce soir. Dans l'actualité également, l'incendie fixé en Gironde. Mais attention, le combat continue. Les pompiers traquent les flammes sous la tourbe. Une page qui se tourne pour l'armée française. Après 9 ans de présence au Mali, ces derniers hommes viennent de quitter le pays. RTL Soir toujours à vos côtés. On redoutait que vous soyez coincé dans les bouchons. Finalement, Sarah Loubacouche, ça circule pas trop mal.
Oui, tout à fait, Antoine. Les prévisions de Bison Futé étaient au vert dans le sens des départs et des retours et cela s'est confirmé. Vos conditions de circulation restent très bonnes, même si, attention, cela commence à se charger en direction de la capitale, notamment sur la 10 à hauteur d'Orléans.
Du monde, en revanche, dans les gares, les prix des billets de train parfois exorbitant. RTL vous donne un bon plan, gagner de l'argent en voyageant. Le sport, ce sera de l'athlétisme. Quelles sont nos chances de médaille au championnat d'Europe? On se pose la question. À suivre également dans RTL Soir à 18h15, Iman Walaj, présidente de l'UNEF. Le syndicat dénonce un coût de la vie qui explose pour les étudiants. 35 euros de plus par mois. Nicolas Burnand au Pays Basque, c'est notre 7 jours, 7 reportages. On embarquera avec lui dans le train de la Rune. Une ascension au sommet dans une petite locomotive d'époque vue époustouflante. Dans la deuxième demi-heure, comment reconstruire Notre-Dame de Paris? RTL vous plonge au cœur du chantier, c'est notre série estivale de la semaine. À 18h45, Pierre Lemaitre vous parle de son dernier roman, un des succès en librairie cette année. Alibi.com 2, ça, ce sera un carton en février prochain. RTL est sur le tournage. Et puis, comme tous les soirs, votre plateau de télé. La météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonsoir.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
La tendance?
Eh bien, tout simplement, l'arrivée d'une nouvelle dégradation orageuse par l'ouest, avec toujours des températures en dessous des 30 degrés, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Merci Claire, on vous retrouve dès la fin du journal.
RTL Soir.
Un homme activement recherché ce soir après la mort à Colmar d'un jeune Afghan de 27 ans, blessé par balle hier, il a succombé à ses blessures à l'hôpital. Bonsoir Dimitri Ramelot.
Bonsoir.
Tout est parti d'une altercation suite à un rodéo urbain.
Oui, midi et demi hier, rue de Berlin, dans le quartier Europe, une zone sensible de Colmar. Un homme de 27 ans, prénommé Kohem, est en bas d'un immeuble avec 3 ou 4 autres membres de la communauté afghane, comme lui. Un scooter fait des tours entre les pâtés de maison, bruyamment, trop bruyamment en tout cas pour Kohem, qui fait une remarque au conducteur et à son passager. Explication, échange d'insultes, le duo laisse le deux roues sur place et revient quelques minutes plus tard. L'homme qui conduisait le scooter pointe une arme à feu, un tir, une balle en plein dans le thorax de Kohem. L'Afghan de 27 ans, inconnu de la police, est très grièvement blessé et transporté à l'hôpital où il décède à 3h du matin. L'enquête a été confiée à la police judiciaire, antenne de Mulhouse, par le parquet de Colmar. La scène de crime a été figée, le scooter examiné pour récolter le moindre élément. Plusieurs voisins ont également été entendus. Aucune interpellation donc à l'heure qu'il est, selon la procureure de la République de Colmar, avec laquelle nous avons pu échanger. Une marche blanche rassemblant 140 personnes a eu lieu cet après-midi dans la rue où s'est déroulé le drame.
Dimitri Ramelot, correspondant RTL dans le Grand Est. Dans la banlieue de Lyon, le jeune homme suspecté d'avoir décapité son père ce week-end à Saint-Priest, il a été mis en examen, placé en détention provisoire. Il a reconnu les faits, mais il n'explique pas les raisons de son passage à l'acte. Un examen psychiatrique a été requis. Sur le front des incendies, l'incendie dans les Pyrénées orientales, il est fixé en moins de 24 heures. 110 hectares de végétation ont été brûlées. Situation maîtrisée également, on le sait depuis hier, en Gironde. Mais attention, le feu est encore loin d'être éteint. 500 pompiers toujours engagés, dont près de 300 Européens. La lutte continue. Écoutez le commandant Mathieu Jomin, porte-parole des pompiers de Gironde.
Chaque partie incandescente est traquée jusqu'à une certaine profondeur, puisqu'on arrive à les retrouver à parfois plus de 40 cm de profondeur. C'est ce qui fait la particularité du territoire, ce qui fait une des difficultés de cet incendie-là. Malgré les différentes opérations de noyage qui ont été réalisées, de largage d'eau par les moyens aériens, le feu couve en sous-sol et il s'agit pour nous vraiment de le traquer et de l'éteindre pour de bon. Il faudrait d'importantes pluies soutenues sur plusieurs jours pour vraiment avoir une action d'extinction et de noyage. Tant que nous n'avons pas le concours de la nature à ce niveau-là, tant que les fumerons persistent, tant que la terre reste chaude, nous serons là.
Pendant combien de temps?
Le temps nécessaire.
Propos recueillis par Juliette Chénion, correspondante RTL en Gironde.
RTL Soir.
Le journal Antoine Cavallero.
Il y a 9 ans, François Hollande ovationné dans les rues de Tombouctou. L'armée française vient de libérer le nord du Mali, de permettre au pays de ne pas tomber aux mains des groupes djihadistes. 9 ans plus tard, les derniers soldats français viennent de quitter ce pays en proie aux violences. Départ prévu depuis 6 mois, nos hommes ne sont plus les bienvenus. Une page se tourne. Pour bien comprendre ce qui se joue, nous sommes en ligne avec Dominique Trinquant. Bonsoir général.
Bonsoir.
La France quitte le Mali. L'opération Barkhane, il faut le rappeler, c'est 1 milliard d'euros par an. 48 militaires français sont tombés au combat au Mali. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce soir un goût d'échec ?
Il y a un goût d'amertume vis-à-vis du Mali qui va continuer à connaître les attaques djihadistes. Il n'y a pas très longtemps, Bamako a même été attaqué, du moins la banlieue de Bamako. L'avenir du Mali est très inquiétant. Comme vous le savez, les forces Barkhane se retirent à la demande du Mali. Comme elles étaient arrivées, l'opération Serval était arrivée à la demande du Mali. Mais la force française reste toujours au Niger, au Tchad et au Burkina Faso.
Et on va y revenir. Mais pourquoi on quitte le Mali ? On n'est plus les bienvenus ?
On n'est plus les bienvenus parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu un putsch dans le putsch. Hein, donc il y a des colonels qui ont pris le pouvoir sans aucune légalité et qui, eux, se sont alliés à Wagner avec les Russes. Ces colonels avaient été formés à Moscou au passage et donc ils considèrent qu'avec Wagner et des mercenaires, ils pourront lutter pour garder le pouvoir, parce que c'est surtout ça leur sujet, c'est pas tellement la lutte contre le djihadisme, c'est surtout garder le pouvoir.
On est intervenu au Mali, général Trinquant, pour éviter des attentats sur notre sol déclenchés depuis le Sahel. C'est donc la raison pour laquelle on combat dans cette région. Est-ce qu'on va continuer à surveiller ces groupes djihadistes sahéliens ?
Bien sûr, la lutte contre les djihadistes continue en soutien des forces du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. Il y a encore 3 jours, la force Barkhane a signalé qu'elle avait tué encore un des grands chefs djihadistes au Mali. Simplement, elle n'interviendra plus au Mali et ça sera au Mali de régler ses problèmes. Et malheureusement, on voit actuellement que le Mali n'est pas tellement en mesure de le faire. Mais en tout cas, le combat continue au Sahel et même vers le golfe de Guinée, puisque en association avec le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, il y a une lutte à organiser également contre ces mouvements djihadistes.
On reste donc au Sahel, mais sous quelle forme ?
Sous la forme d'un soutien en fait aux armées africaines. Il faut se souvenir qu'il y a 9 ans, quand la France est intervenue, les armées africaines n'étaient pas tout à fait en mesure de lutter contre les djihadistes. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Elles se sont équipées, elles ont augmenté leurs effectifs, elles se sont entraînées avec l'appui des Français et d'autres, et des Européens. Et donc, aujourd'hui, les pays africains considèrent qu'ils sont en mesure, avec un soutien de l'armée française, de lutter contre ces mouvements djihadistes. Soutien en particulier dans le domaine du renseignement et de l'appui aérien.
Merci général Trinquant, merci de nous avoir éclairé sur ce départ de l'armée française du Mali. À l'étranger toujours, Salman Rushdie se remet de ses blessures. Il va mieux selon ses proches, il n'est plus sous assistance respiratoire. L'écrivain britannique sauvagement poignardé vendredi lors d'une conférence dans l'état de New York, agressé 33 ans après la fatwa décrétée par l'ayatollah Khomeini. Et ce lundi, Sophie Jousselin, bonsoir.
Bonsoir.
Première réaction officielle de l'Iran, Téhéran nie catégoriquement tout lien avec la tentative d'assassinat.
Oui, tout lien avec l'agression et tout lien avec l'agresseur, sans pour autant blâmer le jeune américain d'origine libanaise pour son geste. Téhéran retourne même la situation et l'auteur des versets sataniques se retrouve ainsi en quelque sorte responsable de sa propre agression. Dans cette attaque, seul Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d'être blâmés et même condamnés, a expliqué le porte-parole iranien. Des déclarations à peine plus polissées que celles de la presse iranienne ce week-end, qui se réjouissait ouvertement de l'agression contre Salman Rushdie. Le quotidien ultra-conservateur Kayhan a même qualifié d'homme courageux et conscient de son devoir l'agresseur de l'écrivain Salman Rushdie, que le journal traite d'apostat et de vicieux. « Baisons la main de celui qui a déchiré le cou de l'ennemi de Dieu avec un couteau », ajoute le journal. Une autre publication va même jusqu'à parler de complot des États-Unis visant à propager l'islamophobie dans le monde.
Sophie Jousselin du service étranger de RT. Israël. En Angleterre, le procès de Benjamin Mendy, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, il est aujourd'hui poursuivi pour viol. Le procès est entré dans le vif du sujet ce lundi. Le procureur a présenté le footballeur comme un prédateur qui a abusé de victimes vulnérables et isolées. Le défenseur français nie les faits. On y revient dans le journal de 19h. Dans un instant, on vous dit comment gagner de l'argent en prenant le train. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir, Antoine Cavallero.
RTL 18h11, c'est la fin de ce week-end de 3 jours. Vous en avez peut-être profité pour partir en goguette. Vous étiez nombreux sur les routes samedi, vous étiez aussi très nombreux dans les trains. 1 300 000 passagers en 3 jours, un quart des trains complets et des tarifs parfois prohibitifs. Alors pour alléger la douloureuse, l'entreprise WePost vous propose de gagner de l'argent en voyageant sur l'axe Paris-Marseille. Vous pouvez transporter des petits colis de la taille d'une boîte de chaussures maximum contre un billet de 20 €. Et souvent, Arnaud Touche, ça fait 2 €.
Devant l'horloge de la gare de Lyon, Hervé, qui travaille dans l'événementiel, trépigne d'impatience.
J'ai oublié mon disque dur.
À Marseille, la veille, et pour lui ramener à Paris, il a fait appel à un voyageur, Jules, 21 ans.
On me l'a donné juste 10 minutes avant de prendre le train, la gare de Marseille-Saint-Charles.
Et désormais, arrivé à Paris, en train, il peut le livrer à Hervé, visiblement ravi.
Ça permet à des jeunes qui me l'ont livré d'amortir un peu leur billet. Il y a un côté vraiment sympa, et bon, c'est surtout efficace, puis c'est rapide, quoi.
Et pour avoir transporté l'objet, Jules a été rémunéré.
C'était super pratique, moi ça m'a pas pris de temps en plus, ça m'a pas fait faire de détour et ça m'a fait gagner 20 €, donc ça m'a fait amortir mon billet largement.
Pour ce service, Hervé a déboursé 25 €, 20 € pour le voyageur et 5 € pour la plateforme WePost qui propose ce service sur la ligne Paris-Marseille avec déjà de nouveaux adeptes, comme le détaille Bruno Hammer, le cofondateur.
Aujourd'hui, on a 6000 personnes qui font partie de la communauté. Tous les jours, on a une centaine de personnes qui déposent des voyages. On a une croissance de 30% par mois. C'est vrai que les gens sont vraiment intéressés de pouvoir rendre service et puis aussi d'avoir la possibilité de voyager plus.
Et la startup souhaite étendre son service sur la plupart des lignes de TGV en France d'ici la fin de l'année.
Un bon plan signé Arnaud Touche, spécialiste transport chez RTL. Et puis pour 3 millions de familles, un virement qui sera le bienvenu à partir de demain. Premier versement de l'allocation rentrée scolaire. On rappelle qu'elle a été revalorisée de 4%. Elle est d'environ 400 € en fonction des revenus des parents et de l'âge des enfants. RTL a enquêté sur le coût de cette rentrée scolaire. Rendez-vous demain dans RTL Matin. Des aides revalorisées pour lutter contre l'inflation. Je vous rappelle aussi dans quelques instants l'invité de RTL Soir, la présidente de l'UNEF, les étudiants frappés de plein fouet par la hausse des prix. À 2 ans des JO de Paris, le coup d'envoi ce lundi des mondiaux d'athlétisme, c'est à Munich. Alors pour l'instant, on retient surtout l'abandon de Kevin Mayer. 3 semaines après leur mondial, son décathlon s'est arrêté dès la première épreuve du 100 mètres. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
Bonsoir.
Le leader de l'équipe de France au tapis, ce n'est pas très encourageant, même si on attend quand même de bonnes performance.
Oui, une vieille blessure aux adducteurs qui se réveille. Kevin Mayer a préféré couper son effort après 60 mètres de course. Il n'y aura pas de doublé pour celui qui est redevenu le 25 juillet dernier champion du monde du décathlon. Un contretemps qui ne doit pas freiner l'équipe de France dans son ensemble. 9 championnats d'Europe se déroulent en ce moment même à Munich. Kevin Mayer à sa sortie du stade au micro de France Télévisions.
Courage à toute l'équipe de France et pas qu'en athlétisme. Les triathlètes nous ont déjà bien fait vibrer en BMX, en natation, en tout. J'espère que les athlètes, ça va être la même.
Place à la relève de l'athlétisme français et retenez quelques noms. Gabriel Tual sur 800 mètres, Wilfried Apio sur 400 mètres haies, Sacha Zoya sur 110 mètres haies ou encore Michael Zézé, 3e temps des engagés demain sur 100 mètres. Le problème, ce n'est pas le nombre de médailles que l'équipe de France d'athlètes va gagner. Elle en avait ramené 10 il y a 4 ans. Non, c'est de savoir plutôt quelle sera la valeur réelle des performances des athlètes français transposées au niveau international à 2 ans des Jeux. C'est bien l'enjeu caché de ces championnats.
Jean-Michel Rascol, spécialiste athlétisme ici à RTL, merci à vous donc sur ces championnats d'Europe d'athlétisme. On l'apprend à l'instant en natation cette fois, la Française Marie Wattel, vice-championne d'Europe du 100 mètres papillon. Elle avait déjà décroché l'argent sur le 50 mètres papillon samedi. Et puis enfin un mot de cyclisme, le grand retour d'Egan Bernal sur un vélo, le Colombien sacré sur le Tour de France en 2019. On le verra à partir de demain sur les routes du Danemark, lui qui a été gravement blessé en janvier dernier, heurté de plein fouet par un bus en Colombie. Il avait failli perdre la vie. La météo, comme promis, Claire Delorme, vous êtes toujours avec nous. Demain, retour des orages.
Exactement, des orages plutôt, salvateurs, avec justement la sécheresse historique et surtout, ça fera beaucoup de bien à la Gironde. Gironde. Donc dans un premier temps, cette dégradation orageuse, elle va arriver par l'ouest. En matinée, elle va toucher donc principalement le littoral de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie. Et progressivement, au fil des heures, eh bien, elle va investir le terrain en arrivant à la mi-journée puis à la fin de journée vers l'est du pays. Donc on aura du vent également en Méditerranée jusqu'à 60 km/h avec des températures en matinée globalement comprises entre 13 à 17 degrés. Donc ça c'est pour la matinée et pour l'après-midi, des températures comprises entre 24 et 28 degrés pour la moitié nord et de 26 jusqu'à 33 degrés pour la moitié sud.
Et les orages risquent d'être violents dans le sud-est.
Absolument, c'est le premier épisode méditerranéen de l'année. D'habitude, c'est un phénomène que l'on rencontre plutôt en automne. Donc là, on assiste encore à la précocité de certains événements climatiques. Et donc, en fait, ajoutez à cela donc, certains facteurs aggravants, la température de l'eau qui est assez chaude. Et forcément aussi, on a ce flux marin, donc ce flux de sud qui ramène donc, justement tout cet air chargé en humidité contre les Cévennes. Et donc, avec les reliefs, eh bien, ça bloque, ça fait des pluies stationnaires et donc des orages particulièrement violent attendu. Je rappelle qu'avec la sécheresse historique que nous connaissons, eh bien nous ne sommes pas à l'abri de phénomènes comme des inondations, des débordements et des ruissellements. Et
il faudra donc être très vigilant. Merci Claire, je vous dis à dans un quart d'heure, dans un instant, dans ce studio, Iman Welhadj, présidente du syndicat étudiant UNEF. Elle est l'invitée de RTL Soir pour parler du coût de la vie étudiante qui explose en hausse de 35 euros par mois. A tout de suite.
RTL Soir. Antoine Cavalleiro, l'invité d'RTL Soir.
18h18 sur RTL, on le voit tous au supermarché au moment de payer nos factures, les prix flambent, mais l'inflation frappe encore davantage les étudiants, c'est ce que dénonce l'UNEF. Pour en parler, sa présidente avec nous en studio. Bonsoir Iman Welhadj.
Bonsoir.
D'après votre enquête annuelle que vous venez de sortir de publier, le coût de la vie pour un étudiant augmente de 6,47%. C'est plus que l'inflation, c'est donc plus que pour la moyenne des Français. Concrètement, ça veut dire qu'un étudiant à partir de la rentrée va dépenser 428 euros supplémentaires par an, 35 euros par mois. Ils vont partir dans quoi ces 35 euros, Iman Welhadj ?
Ils vont partir dans les dépenses de première nécessité. Parce que si l'inflation est un peu plus élevée que la moyenne pour les étudiants, c'est tout simplement parce qu'en fait, nos dépenses sont principalement les dépenses de première nécessité, donc tout ce qui est loyer, alimentation, énergie. Et c'est les postes de dépenses qui ont le plus augmenté cette année.
Ouais, la nourriture, vous dites qu'avec la hausse des prix, les étudiants vont payer 10 à 14 euros de plus chaque mois. Ça veut dire que les étudiants vont dépenser moins dans les bons produits, dans les fruits et les légumes ?
Oui, c'est ça. C'était déjà le cas. Ouais. L'alimentation, quand on est étudiant, c'est pas quelque chose de très varié. Et c'est pour ça que dans notre enquête, on a pris un chiffre qui est quand même assez parlant quand on est étudiant, c'est le taux de l'inflation sur les pâtes. Ouais. On arrive à 15% d'inflation sur le paquet de pâtes cette année. Et c'est quelque chose qui est quand même assez considérable dans le budget d'un étudiant parce que c'est quand même une grande partie de notre alimentation, malheureusement, parce qu'on était déjà dans des situations.
Oui, j'imagine que vous aimeriez bien mettre du beurre dans les épinards et manger un peu plus varié. Sûr.
Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, manger que des pâtes matin, midi, soir, je pense que ça ne donne envie à personne. Et puis même pour l'aspect santé, c'est pas normal de manger en fait comme ça tous les jours de l'année. Et là, dès que les étudiants ont pu un peu justement trouver du beurre dans les épinards et trouver d'autres légumes, c'est via du coup l'ensemble des distributions alimentaires qui ont été menées ces derniers mois et même ces dernières années maintenant depuis la crise sanitaire, avec que ce soit l'UNEF ou tout un tas d'autres acteurs qui avaient mis en place en fait des paniers de légumes et de fruits gratuits pour les étudiants. Et en fait, nous, on se pose la question aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'en 2022, un étudiant doit faire en fait le choix entre étudier correctement et pouvoir manger et se loger dignement.
Ouais, le logement, c'est combien le loyer moyen pour un étudiant?
C'est à peu près 563 euros de loyer moyen.
Et là aussi, les prix ont augmenté.
Et là aussi, les prix ont augmenté. Et c'est quand même assez disparate de l'Île-de-France à la province.
C'est ça, parce qu'à Paris, les loyers sont très chers, voire excessifs. Mmh. Alors qu'en province, c'est plus facile de se loger.
C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que finalement, à Paris, c'est toujours très compliqué de trouver un logement, que ce soit à Paris ou dans sa banlieue. C'est quand même excessivement cher. Mais là, ce qu'on voit, nous, au fur et à mesure des années, c'est que finalement, l'augmentation des loyers, elle est plus forte en province, tout simplement parce que sur l'Île-de-France, on a quand même énormément de municipalités qui ont mis en place l'encadrement des loyers. Et notamment, ça concerne les petites surfaces, donc ce qu'on va louer en tant qu'étudiant. Ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les villes universitaires de province. Et donc, on voit une hausse qui est quand même complètement différente entre la province et l'Île-de-France. On est à 1,72% d'augmentation sur les grandes villes de province contre 0,60% en Île-de-France. Ce qui montre bien en fait, qu'aujourd'hui, pour en fait, faire face à cette inflation et faire face à l'augmentation du coût de la vie, c'est pas forcément les mesures qui sont mises en place nationalement qui permettent aux étudiants de s'en sortir, mais c'est plus les mesures qui sont mises en place par les municipalités et les métropoles.
Alors tout de même, le gouvernement promet des aides, un chèque de 100 euros à la rentrée, une revalorisation des bourses de 4%, ça fait combien 4%?
4% sur l'échelon qui est le plus donné aux étudiants, qui est l'échelon 0 bis,
ouais.
Ça équivaut à 4,17 euros.
Oui, donc j'imagine que ce n'est pas assez pour vous. Vous attendez plus du gouvernement?
Nous, on attend plus du gouvernement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle, ça fait 5 ans que le gouvernement d'Emmanuel Macron nous promet une réforme des bourses.
Mmh.
Macron, c'est aussi le premier président depuis 15 ans maintenant qui n'a fait aucune réforme des bourses et bien au contraire, qui a même baissé le budget par étudiant dans l'enseignement supérieur. Et donc nous, ce qu'on demande via cette enquête, c'est
qu'on puisse qu'il faut faire alors
c'est de pouvoir en fait complètement réformer le système de bourse et le système d'aide sociale aujourd'hui en France, parce que malheureusement...
C'est d'aider tous les étudiants?
C'est d'aider tous les étudiants qui en ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, en France, à 18 ans, on est majeur légalement, mais on ne l'est pas socialement. Jusqu'à ses 25 ans, c'est quand même très compliqué de pouvoir bénéficier de tout un tas d'aides quand on est en situation de précarité. Et donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des discussions claires sur ce qui se passe et de pouvoir, en fait, avoir des aides sociales qui soient en adéquation avec la réalité concrète des étudiants. Et donc, nous, à l'UNEF, ce qu'on demande, c'est la création d'une allocation d'autonomie qui serait universelle.
Ça consiste en quoi, ça, précisément, concrètement?
L'allocation d'autonomie, c'est assez simple. C'est une aide qui serait universelle, donc pour l'ensemble des étudiants qui souhaitent en bénéficier.
Quelles que soient les conditions de revenus des parents?
Parce que justement, nous, c'est un des désaccords qu'on a avec le gouvernement aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que les bourses sur critères sociaux pour les étudiants sont calculées sur le revenu des parents, alors qu'on est censé être majeur quand même quand on est à l'université, et que surtout, ça ne correspond pas en fait à notre réalité. Malheureusement, moi comme d'autres, on ne vit pas avec la carte bleue de papa et maman dans son sac pour pouvoir...
Vous êtes obligé de travailler peut-être
Pour payer sa vie, et donc oui, il y a des étudiants qui sont obligés de se salarier, d'autres qui sont obligés de contracter des prêts, etc., etc. Et donc en fait, finalement, on arrive à la fin de ses études déjà endettées. Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est une allocation d'autonomie qui serait calculée sur le seuil de pauvreté et qui soit d'un montant suffisant pour vivre. On ne demande pas plus. C'est tout simplement en fait pour pouvoir permettre aux étudiants de faire leurs études dans de bonnes conditions, mais aussi pouvoir en fait atteindre une autonomie des jeunes qui soit réelle et qui ne soit pas juste sur le papier pour tout un tas de raisons.
Merci Emmanuel Hadj, présidente du syndicat étudiant UNEF. Merci d'avoir été l'invité de RTL Soir. Dans un instant, vous rentrez de votre week-end prolongé. Vous êtes peut-être dans les bouchons. Les enfants s'impatientent à l'arrière. Pas de panique, Laurent Marsic arrive. Il a une idée de jeu pour les occuper. Et puis Nicolas Burnand au Pays Basque. Il vient de prendre un train un peu particulier. Le train de la Rune qui vous emmène au sommet de cette montagne. Et je peux vous dire que ça vaut le détour. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir. RTL.
À quoi on joue dans la voiture ?
Laurent Marsic.
On joue à quoi ? On joue au jeu des plaques et de l'alphabet. Tout un programme.
Il existe plein de variantes de jeux à faire avec les plaques d'immatriculation. En voici une. Les enfants, on va réviser l'alphabet.
A, B, C, D, E, F, G.
Il faut se partager les vitres de la voiture. Il y en a un qui regarde à gauche, l'autre par exemple derrière. La règle est la suivante. Muni, si tu as besoin d'un papier et d'un crayon, il s'agit de noter les lettres inscrites sur les plaques d'immatriculation. Il faut recomposer dans l'ordre l'alphabet. Attention, pas tout l'alphabet, car par exemple, les lettres I, O et U n'existent pas sur les plaques d'immatriculation en France. Tout simplement pour ne pas qu'on confonde le I avec le 1, le 0 avec le O et le U avec le V. C'est comme ça. Nous aurons donc 23 lettres et non pas 26 à trouver.
W, X, Y, Z.
Merci Laurent Marsic, que je vous dis à tout à l'heure, 18h55 pour votre plateau télé. Je rappelle que ce jeu est à retrouver dans votre podcast Un jeu et une histoire, un de nos meilleurs podcasts en partenariat avec les éditions Albin Michel Jeunesse. RTL, 18h26, à nous, la Côte Basque.
RTL, 7 jours, 7 reportages.
Tout l'été, nos reporters sur la route des vacances, et vu que Nicolas Burnand est un homme de goût, il a choisi les Pyrénées-Atlantiques entre océan et montagne. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
Vous avez décidé de prendre de la hauteur aujourd'hui, de gravir l'Olympe des Basques, le sommet de la Rune, un site mythique, l'un des plus visités de la région.
Alors oui, ce matin en me levant, j'étais motivé, tout était prêt, les chaussures, les bâtons, 1h30 à pied au programme par des chemins escarpés. Mais vous voyez venir Antoine, j'ai reculé devant l'obstacle, j'ai préféré prendre un train centenaire, rester dans son jus malgré un siècle de voyage vers le sommet. Sur le quai, je scrute son arrivée avec Kemen, le chef de gare.
Alors le train arrive,
oui,
en gare, il rentre en gare et c'est un train particulier. C'est une carcasse en acier avec les roues dentées, le support, etc. Mais toute la carrosserie est en bois. C'est du sapin des Pyrénées. Chaque convoi, c'est une motrice qui est en aval, c'est-à-dire en bas du train, qui pousse deux wagons. Ça fait 120 voyageurs par train. C'est alimenté en triphasé 3000 volts pour une vitesse maximale de 9 km/h à la montée ou à la descente. Il y a 100 ans, ça roulait déjà comme c'est là actuellement, c'est-à-dire avec les mêmes banquettes, etc.
On y va alors ? Je vais y aller ? Je vais le tester ?
Allez, c'est parti !
Et je dois avouer qu'il est magnifique ce train. Il est somptueux, c'est vraiment un vieux train à l'ancienne, tout en bois. Et vous avez donc pu prendre place à l'intérieur, tout à l'avant du train, avec le conducteur.
Oui, ce qui est magique, Antoine, c'est que la cabine est ouverte. On est à l'air libre avec ces instruments d'époque. Tout est manuel. Il n'y a pas d'électronique, bien sûr. On sent l'odeur de la graisse et de l'huile. Et c'est donc parti pour 4 km de montée.
On ferme la petite porte. Donc face à nous, la voie de chemin de fer à crémaillère. Ok, là, c'est parti. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Moi, c'est Henri.
Ah, donc vous êtes le chef du train ici ?
C'est ça. Mais moi, je dois surtout surveiller la voie, vérifier qu'il n'y ait pas d'animaux ou de cailloux.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'arrière, dans la motrice, il y a un mécanicien, un aide-mécanicien. Vous êtes en relation avec eux ?
Avec une sonnette qui leur dit quand je veux qu'ils démarrent et surtout aussi quand je veux qu'ils arrêtent. Parce que voilà, ils savent pas du tout qu'est-ce qui se passe devant, ils voient pas où on va. Parce qu'il peut y avoir, comme là, regardez.
Ah ouais, là, il y a un mouton qui s'est invité sur la voie.
D'ailleurs, ses copines pas loin, en plus. Nickel.
Ouais, et à droite, là, on voit les randonneurs qui montent, hein, sur un petit chemin escarpé.
Voilà, l'une des meilleures vues à gauche, Sarre est sous Grand Mourdi au fond. Et sinon, après, à la fin, vous verrez aussi la baie de Saint-Jean et toute la côte, là, c'est pas mal aussi, vous allez voir.
Et alors, les voyageurs, comment ils vivent ce voyage ?
Eh bien, prendre ce petit train brinque-ballant, c'est éviter les moutons, vous l'avez entendu, mais c'est surtout faire un voyage dans le temps, comme autrefois, observer la nature, les paysages, remarquer les vautours au-dessus de sa tête, ce qui émerveille toujours les touristes. J'ai quitté le conducteur pour les rejoindre.
On est dans un petit compartiment avec des sièges en bois, et je suis avec...
Ludovic.
Vous venez d'où ?
De Charente.
Et vous êtes en famille, alors ?
Oui, bien sûr, tout le temps en famille.
Comment vous trouvez ce train ?
Atypique. Les paysages... très joli, ça nous permet de respirer après 2 mois de chaleur intense. Un train d'un autre temps.
Ça nous permet de découvrir une autre région, parce que moi c'est la première fois que je viens dans cette région. Elle est belle avec donc, la mer et les montagnes, donc ça fait un contraste qui est très joli. Et puis bah, ça nous permet donc, de comprendre comment à l'époque, donc, par exemple, ils faisaient pour faire du tourisme. Et donc là, on va dire du tourisme ancien.
La montée dure une quarantaine de minutes, arrivée à 905 mètres d'altitude. Puis le flot de touristes descend pour rejoindre à pied le sommet. Je me suis vraiment senti privilégié de vivre ce voyage. Cette ligne fonctionnera jusqu'à la fin de l'été. Ensuite, d'importants travaux de rénovation auront lieu jusqu'en 2024.
Et on imagine que la vue depuis le sommet est juste splendide. Quel est le programme, Nicolas, pour les prochaines heures ?
Alors justement, je vais aller me dégourdir les jambes, enfin et découvrir ce sommet, sa nature sauvage. J'espère voir des potocs, ce sont de petits poneys basques qui vivent en totale liberté. Et puis ici, la démarcation entre la France et l'Espagne suit la crête de la montagne. C'était autrefois un lieu de contrebande. Mais attention, la météo peut changer très vite. Un dicton dit ici: si tu vois la rune, c'est qu'il va pleuvoir. Si tu ne la vois pas, c'est qu'il pleut. Je vous dirai ça demain.
Je le note celui-là. Merci Nicolas Burnand. Et à demain.
RTL Soir, Antoine Cavallero.
18h31, les principaux titres à retenir ce soir. Un jeune homme, un ressortissant afghan de 27 ans tué par balle à Colmar après avoir manifesté sa colère contre un rodéo urbain. L'altercation a eu lieu hier, le conducteur du deux roues activement recherché ce soir. Une page se tourne pour l'armée française. Après 9 ans de présence au Mali, les derniers soldats viennent de quitter le pays. Ils ne sont plus les bienvenus, mais le combat au Sahel. Dans les autres pays de la région, ils continuent le combat contre les groupes djihadistes. suite. En Angleterre, le procès de Benjamin Mendy, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, il est aujourd'hui poursuivi pour viol. Ce lundi, le procureur a présenté le footballeur comme un prédateur qui a abusé de victimes vulnérables et isolé le défenseur français. Ni les faits, ce sera l'un des titres du journal de 19h. La météo, Claire Delorme, toujours les orages de demain qui risque d'être très violent.
Surtout dans le sud-est. En tout cas, oui, c'est l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse. Et ça commence dès la matinée, donc par l'ouest du pays. Donc au fil des heures, elle va progressivement investir le terrain et gagner l'est du pays. Donc justement, ils vont être localement forts dans le sud-est. Ça sera le premier épisode méditerranéen. Côté température, en matinée, 13 à 17 degrés. Et l'après-midi, jusqu'à 28 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 33 degrés pour la moitié sud, près de la Méditerranée, justement.
Merci Claire. Dans un instant, on vous emmène dans un lieu complètement interdit au public, le chantier le plus suivi de France, Notre-Dame de Paris en pleine reconstruction. C'est notre série de l'été. Au programme également, les recommandations de notre service culture, un livre, Le Dernier Pierre Lemaitre, un film, Alibi.com 2 avec Ariel Dombal et Gérard Jugnot, puis le programme télé. Mais là, dans un instant, le deuxième invité de RTL Soir, Alexandre Dechlot, il est à l'origine du plastique Odyssée, un bateau qui va faire le tour du globe pour alerter sur la pollution plastique des océans. Le navire vient d'arriver à Marseille. Je vous dis à tout de suite.
RTL Soir, Antoine Cavallero.
18h34, le deuxième invité de RTL Soir est Alexandre Dechlot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur du Plastic Odyssey, un bateau un peu particulier qui va voguer sur les mers pour sensibiliser sur un enjeu crucial, la pollution des océans, la pollution plastique. Vous êtes parti au début du mois de Saint-Nazaire, vous venez d'accoster à Marseille, vous allez y rester quasiment 2 mois. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre bateau? Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Oui, c'est un bateau ambassadeur de solutions pour lutter contre cette pollution.
Ouais, vous allez ramasser des déchets plastiques et vous allez les transformer ensuite?
Alors, le bateau collecte pas les déchets en mer, mais il sert vraiment de laboratoire pour former les entrepreneurs qu'on rencontre à chaque escale. Et on les embarque à bord en fait pendant 2 semaines pour les former à l'utilisation de ces machines dont les plans sont gratuits.
Et comment recycler ensuite ces déchets plastiques?
L'idée, c'est de leur donner un peu plus de valeur et les transformer en nouveaux objets. Donc, on peut faire des briques, on peut faire des tuiles pour les toits, par exemple. On peut faire des plaques pour faire du mobilier. Et enfin, quand il n'est pas recyclable, il y a une dernière chose qu'on peut faire avec ce plastique. On peut le transformer en carburant et faire de l'énergie. Donc, à bord, on a une machine qui permet de transformer les déchets en carburant, qui alimente le groupe électrogène qui lui-même donne l'énergie à l'atelier de recyclage entier.
Vous avez prévu de faire le tour de la planète avec votre bateau. Ça va durer combien de temps? Quelles sont vos escales?
Le 1er octobre, première traversée vers le Liban. 30 escales autour du monde en 3 ans, avec un rythme en moyenne de 3 semaines d'escale pour une semaine de navigation.
Votre objectif, oui, c'est donc de sensibiliser à chaque fois que vous accostez dans un port, de montrer vos techniques, ce qu'on peut faire avec les déchets plastiques, comment les recycler.
On a un programme de recherche, on a un programme pédagogique aussi qui s'adresse aux enfants, aux élèves, et on a ce programme de formation d'entrepreneurs, donc qui nous permet de toucher un peu tout le monde finalement à chacune des escales.
Et les gens vont pouvoir monter sur le bateau, c'est en accès libre, comment ça se passe?
Oui, à partir du 23 septembre, on peut visiter le bateau, on peut visiter le village qui est déployé devant le bateau à chacune des escales. Donc il faut s'inscrire, ça va être autour du Mucem et voilà, le bateau sera à quai et on déploiera ce village qu'on pourra aussi visiter. Et voilà, l'idée, c'est de développer un réseau mondial, l'initiative locale à la fois de réduction de l'utilisation du plastique et à la fois de recyclage de ce qu'on appelle, nous, l'héritage plastique. C'est ce qu'on a produit depuis 1950 et qui, malheureusement, n'a jamais été recyclé, n'a jamais été valorisé.
Oui, parce qu'il vient d'où, ce plastique qu'on retrouve comme ça par milliers de tonnes dans les océans? C'est le tourisme, c'est les habitants, les usines?
En fait, en grande majorité, c'est les villes côtières qui sont dépourvues de moyens de gestion de déchets. Et en fait, une mauvaise perception qu'on a souvent, c'est qu'on a cette image tous de continents de déchets, de villes sur laquelle flottent des déchets plastiques. Malheureusement, le plastique, une fois qu'il est entré en mer, il est perdu, il coule. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'aller le récupérer, ça ne marche pas. Les scientifiques sont vraiment unanimes là-dessus. Il faut développer des solutions à terre en amont de cette pollution qui est que le symptôme qu'on voit sur nos plages et dans les océans.
Merci beaucoup Alexandre Dechlot.
Merci à vous.
Je le rappelle, vous êtes le cofondateur du Plastic Odyssey. Votre bateau se trouve actuellement à Marseille à visiter dès le 23 septembre.
RTL, les séries de l'été.
C'est notre nouvelle série estivale. Cette semaine, RTL vous emmène dans les coulisses du chantier de Notre-Dame, rongé par les flammes en 2019. La flèche effondrée. Emmanuel Macron fixe alors un calendrier, un cap, reconstruction terminée en 2024. 5 ans pour rendre la cathédrale au culte et au public. Bonsoir Sophie Orange.
Bonsoir.
Pour RTL, vous suivez depuis 3 ans toutes les étapes du chantier de Notre-Dame. Vous avez pu vous rendre 2 fois à l'intérieur, ce qui est un privilège assez rare. Comment ce pari fou peut-il être tenu ?
Eh bien, par une organisation sans faille. Dès le lendemain de l'incendie, tout a été pensé en vue de la restauration et de la reconstruction, sous la baguette d'un seul homme, le général Georges Lain, nommé en Conseil des ministres alors que les cendres de la cathédrale étaient encore chaudes.
On a une planification qui a été faite en concertation avec les différents acteurs. Vous savez, les Italiens, ils ont dit « je reconstruirai le pont de Gênes en 2 ans ». Tout le monde a dit « ah, ils ont reconstruit le pont de Gênes en 2 ans, il ne s'est pas effondré ». Ben nous, on reconstruit cette cathédrale. Croyez-moi, c'est fondamental d'avoir un objectif temps, 2024, car ça mobilise vraiment tout le monde. C'est comme ça qu'on tient un délai.
Après une très longue phase de sécurisation dans l'urgence, la restauration proprement dite a commencé à l'automne dernier. Tout est anticipé. Les 1000 chaînes de la future flèche ont été sélectionnées et coupées suffisamment tôt pour que le bois ait le temps de sécher. Les géologues ont fait le tour de France des carrières dès 2020 pour repérer les pierres les plus compatibles avec Notre-Dame. Les 8000 tuyaux de l'orgue sont démontés à temps pour qu'ils puissent être nettoyés dans les délais. Des artisans aux quatre coins de la France sont mobilisés pour Notre-Dame. Ils ne se connaissent pas, mais avancent avec un seul objectif, 2024. Flavie Vincent Petit, qui restaure les vitraux de Notre-Dame dans son atelier de Troyes, n'a jamais vu ça.
Ce qui est extraordinaire, c'est d'œuvrer tous ensemble, un but commun, cette énergie positive qui transforme les choses, qui va redonner à Notre-Dame en fait un nouveau souffle. C'est un chantier totalement hors norme, de par sa taille, de par son temps. Tous les corps de métier travaillent en même temps. Et on est vraiment dans un élan collectif, dans un temps vraiment hyper coordonné, un peu comme au Moyen-Âge finalement.
Et c'est vrai, Sophie, que tout est hors norme dans ce chantier.
Oui, du début à la fin, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de vous dire. Le plus difficile, c'est sans doute la présence de plomb dans la cathédrale qui oblige tous ceux qui y travaillent à porter une combinaison spéciale. Un masque qui rend difficile la respiration et qui limite le nombre d'heures sur place. Il faut être formé.
Donc là, vous avez tout le kit d'équipement. Il y a la combinaison jetable et les sous-vêtements jetables qui contiennent une serviette, un caleçon long, un t-shirt et des chaussettes.
Et même quand on y reste 2 ou 3 heures, c'est fastidieux. Douche obligatoire, cheveux compris, brossage des ongles avant de retourner dehors. L'objectif est d'enlever toute trace de plomb. Voilà, ça c'est pour le plus désagréable. Mais une fois qu'on y est, on ne trouve plus les mots tellement tout est spectaculaire. Comme le jour où je suis allée à la rencontre d'un cordiste de l'entreprise Jarnias en train de travailler à l'extérieur avec une vue sur tout Paris. L'ascenseur nous attend pour monter le plus haut possible. On va au sommet, donc à 33 mètres de hauteur. Et on aperçoit le ciel bleu. On va aller à droite. Voilà, on y est arrivé. Sur le toit de la cathédrale. Il est là.
Ouais.
Le voilà, perché dans les airs. Bonjour Mathieu.
Bonjour. Ça fait 2 ans que je travaille sur Notre-Dame, donc j'ai à peu près tout fait, du démontage de l'échafaudage, aux arcs-boutants, au bâchage, au filet. J'ai un peu touché à tout.
Vous la connaissez mieux que personne ?
Je pense que je suis dans le top 10. Ouais.
On va vous laisser remonter. Les minutes sont précieuses.
Je vous remercie.
Et Sophie, que reste-t-il à faire, à accomplir d'ici 2024 ?
Alors ça, la liste, je peux vous dire, elle est encore très très longue. Hors de la cathédrale, restauration tous azimuts dans des dizaines d'ateliers, facteur d'orgue, maître verrier, restaurateur de peinture, ferronnier, sculpteur, 35 scieries, etc., etc. Au total, 140 marchés ont été passés. Et à l'intérieur de Notre-Dame, le nettoyage des piliers et des murs continue pour enlever le plomb. Et cet été, montage d'un nouvel échafaudage dans le transept pour la reconstruction de la flèche et de la voûte du transept. Un géant métallique de 100 mètres de haut, plus de 600 tonnes. Début 2023, devrait apercevoir les prémices de la flèche. Le général Georges Lain est confiant pour l'avenir.
C'est sûr que l'incendie est une catastrophe, mais en 2024, on reverra cette cathédrale comme on ne l'a pas vue depuis sa construction, en fait.
Et cet été, le nombre de compagnons dans la cathédrale va être multiplié par 3 pour atteindre 500 personnes. C'est du jamais vu sur le chantier. Clairement, on entre dans une nouvelle phase jusqu'en 2024.
Et demain, nous ferons connaissance avec des artisans bien particuliers, des restaurateurs de peinture. Une plongée au cœur des travaux dans la cathédrale. C'est une série préparée, concoctée par Sophie Orange, à retrouver en version longue, en podcast sur RTL.fr et sur l'application RTL. Dans un instant, le dernier roman de Pierre Lemaitre, raconté par l'auteur prix Goncourt. Le dernier film de Philippe Lachaud, Alibi.com 2. Stéphane Boutsock nous attend sur le plateau de tournage. Sans oublier le plateau télé de Laurent Marsic. Vous l'avez compris, la culture sous toutes ses coutures. Laissez-vous tenter de l'été, c'est juste après ça.
RTL Soir.
RTL.
Laissez-vous tenter de l'été.
Notre service culture ne prend pas de vacances et chouchoute les vôtres. On commence par un livre ce soir à 18h44. Il est déjà sur toutes les serviettes, dans toutes les valises. Bernard Lehu, vous nous parlez du dernier roman de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013. Cette année, il a sorti Le Grand Monde aux éditions Calmann-Lévy et c'est tout bonnement formidable.
Après sa trilogie Les Enfants du Désastre, brillamment ouverte par Au revoir là-haut et consacrée à l'entre-deux-guerres, Pierre Lemaitre plonge cette fois dans Les Trente Glorieuses par le truchement d'une trépidante saga familiale, celle des Pelletier. Fleuve par le nombre de pages, 580, ce premier tome est compact dans le temps, de mars à novembre 1948, et dilaté dans l'espace entre Beyrouth, Saïgon et Paris. L'écriture de Pierre Lemaitre file au grand galop, comme d'habitude, le lecteur se régale de cette cavalcade d'histoires dans la lignée d'un Dumas ou d'un Zola, ambitieux roman historique et social. Le Grand Monde se lit aussi comme un polar captivant qui met en scène un tueur de femmes, Pierre Lemaitre.
En vérité, je crois que beaucoup de mes confrères comme moi-même rêvent de faire un roman qui serait à la fois un roman historique et un roman social, à la fois un roman familial et un roman politique, qui soit à la fois un roman d'amour et un roman policier. Alors moi, ça m'a beaucoup amusé d'avoir une famille qui me permettait, puisque j'avais plusieurs personnages, de tisser au fond l'ensemble de ces fils narratifs, d'avoir une sorte de roman comme ça, effervescent, qui comprendrait un petit peu tout ça, au point qu'un libraire pourrait me dire mais dans quelle catégorie je vais le mettre, et je lui répondrais dans la catégorie des romans.
Pierre Lemaitre, vous confirmez dans Le Grand Monde votre art du portrait. Chacun de vos personnages, hein, qu'ils soient principal ou secondaire, est remarquablement décrit physiquement, psychologiquement, et il faut une sacrée connaissance de la condition humaine, non, pour en arriver là.
Oui, alors, ou être vieux. Des fois c'est les deux, mais pas forcément. Bah, c'est-à-dire que, en fait, effectivement, quand vous arrivez à l'âge que j'ai, vous avez vu de la vie, vous avez vu beaucoup de choses, vous avez vu des gens, vous avez croisé des millions de personnes. Et quand vous êtes un romancier, que vous êtes une éponge et que vous attrapez comme ça, au fur et à mesure de votre existence des choses, vous finissez par avoir dans votre boîte à outils beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'humanité. On tente de les dire comme ça, à peu près correctement, au fil des livres.
Votre âge, ça peut se dire, non?
Oui, j'ai 70 ans.
Bon, merci. Et puis, dans Le Grand Monde, page 465, on trouve ça.
Aujourd'hui, c'est le nouveau Pax Lessive Forte qui vous offre la famille du raton.
Jean, as-tu été sage aujourd'hui à l'école?
Oui, maman.
C'est bien vrai, ça?
Oui.
Eh oui, Radio Luxembourg, la famille du raton. C'est Geneviève, l'épouse justement de Jean, l'un des fils Pelletier, qui est une auditrice fidèle de Radio Luxembourg. Vous l'écrivez.
Dans cette décennie, tout le monde écoutait la même station, tout le monde écoutait. Vous voyez, il y avait pas de challenger, il y avait pas de concurrence, il y avait pas beaucoup de télévision, elle était encore naissante. Évidemment, aucun réseau social, le cinéma n'était pas à la portée de tout le monde. La radio était vraiment le lieu où se retrouvait la famille. On regardait la radio tous les soirs.
Pierre Lemaitre, toujours passionnant, donc à l'oral. Comme elle écrit, il publie Le Grand Monde, l'un des incontournables de l'année. Vous l'aurez compris, c'est à lire aux éditions Calmann-Lévy.
Merci Bernard Lehu, vous aussi, hein, toujours aussi passionnant. Deuxième recommandation, signée Laissez-vous tenter de l'été. On parle cinéma, c'est forcément avec vous Stéphane Boutsock. Vous nous emmenez sur le tournage d'Alibi.com 2, réalisé par Philippe Lachaud et toute sa bande.
Suite d'un très gros succès de l'année 2017, 3 600 000 entrées pour cette comédie qui racontait comment le jeune patron d'une boîte spécialisée dans le mensonge, l'alibi à la carte, allait se retrouver débordé par son concept. 5 ans plus tard, le revoici avec cette fois sur les bras son propre mariage à organiser et de faux parents à trouver, puisqu'il juge les siens pas vraiment présentables.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nous voici à la Selle Saint-Cloud, banlieue chic de l'ouest de Paris, dans deux superbes maisons avec piscine, décor principal de la fin de ce film tourné pendant 55 jours jusqu'à la fin juillet. Scène du jour, une chorégraphie sur un tube de Céline Dion, on l'entend avec Philippe Lachaud et Elodie Fontan, alias Grégory et Florence. La bande à Fifi, c'est Alibi.com 1 et 2, mais aussi Babysitting 1 et 2, Nicky Larson ou encore Super Héros Malgré Lui. Des millions d'entrées, un style et un lien évident avec le public.
Là, c'est mon 6e film déjà, je crois. J'ai tourné Babysitting en 2013 et c'est vrai que je me dis, ouais, c'est pas rien. Et la chance qu'on a surtout, c'est que les gens, pour l'instant, visiblement, se s'en lassent pas. Et nous, la phobie à chaque fois, c'est de décevoir les gens qui sont marrés sur nos anciens films. On se dit, on veut pas qu'ils se marrent moins sur celui-là. Donc on essaie vraiment de se mettre la pression. pour qu'ils passent le meilleur moment possible en famille et qu'ils se marrent le plus possible.
Alors, une des raisons du succès, selon Élodie Fontan, c'est tout simplement que Philippe Lachaud, Julien Arrouty ou Tarek Boudali ressemblent à leurs personnages.
En fait, la bande, c'est une bande de grands-enfants. Hein. C'est des gosses, hein, tous, hein, mais vraiment. C'est une bande de copains qui a voulu vivre son rêve à plusieurs, entre eux, et ça rend l'histoire encore plus belle. Ils ont fait le babysitting 1, ils pensaient pas que ça allait cartonner comme ça, ils se sont retrouvés, tu vois, dans une aventure folle et qui continue jusqu'à maintenant où les films plaisent. Et du coup, ouais, je trouve que c'est une sublime histoire parce que pouvoir vivre un beau succès seul, c'est déjà beau, c'est déjà chouette dans une carrière, mais pouvoir le vivre avec ses copains, ça a une autre dimension. C'est magique.
Alors Stéphane, c'est une habitude hein, dans les films de Philippe Lachaud, on retrouve des acteurs, des actrices des générations précédentes.
Nathalie Baye et Didier Bourdon ont repris leur rôle, rejoints par Ariel Dombal et Gérard Jugnot. On commence par Ariel qui joue dans le film La Maman de Philippe Lachaud, une comédienne, comment dire, de charme, qui continue à tourner, je cite, pour la beauté de l'art. Personnage comique donc, registre que l'actrice a assez peu abordé dans sa carrière.
J'ai fait beaucoup de cinéma expérimental, j'aime beaucoup des films très rares, des films d'art et d'essai, voilà, j'aime ça, j'aime le cinéma, l'écriture cinématographique de grand style. Les comédies, j'en ai moins faites, mais je me suis toujours beaucoup amusée. La première comédie que j'ai faite, c'était avec Michel Serrault et Josiane Balasco et tout ça, Le Libertin, puis j'ai fait Un Indien dans la ville. Ils ont toujours eu beaucoup de succès, les comédies que j'ai faites. Et là, j'en avais pas fait depuis longtemps. J'étais plus dans le cinéma, plus underground. Et donc, ressurgir comme ça, dans cette comédie, ça m'a amusée.
Et puis dans le rôle de Daniel, le mari chasseur de fauves et escroc, Gérard Jugnot donc, ravi de retrouver la bande après Babysitting en 2014.
On retrouve ce qu'on était nous à l'époque, c'est-à-dire que nous notre rêve c'était de tourner avec Marielle, avec Rochefort, avec Moiret, avec Pierre Richard, enfin bon, avec des gens qui nous avaient ouvert la voie. Et moi j'ai fait des films avec Serrault, j'étais super heureux. Et en plus c'est très très bien, même pour le spectateur, je trouve, de mélanger les générations et les... Et les manières d'aborder la comédie. Pour moi, c'est vraiment une famille. Il y a cette espèce de camaraderie, de bienveillance et de talent.
Notez que Gad Elmaleh, Alexandra Lamy ou Pascal Obispo feront aussi quelques apparitions dans le film. Alibi.com 2 est une grosse production française dans un registre, la comédie, que le public continue de plébisciter et qui surfe de plus sur une thématique, le mensonge, qui concerne absolument tout le monde, selon Philippe Lachaud.
Je pense qu'il y a beaucoup de mythos en France qui se sont reconnus dans ce sujet. Parce que, en fait, les sociétés d'alibi, c'est quelque chose qui existe. Moi, j'ai eu l'idée en voyant un reportage sur M6 il y a un moment. Et il parlait de ces sociétés qui permettaient aux gens de mentir, de sortir, soit pour tromper son conjoint, soit pour se sortir de situations, comme on dit, un dîner ennuyeux avec sa belle famille, ou éviter un déménagement, enfin des trucs. Et en fait, il mettait au point des petits alibis comme ça, fait maison. Et je trouvais ça incroyable. Et effectivement, c'est un super sujet de comédie, parce que dès que tu traites du mensonge, nous on a ramené ça à une histoire en plus d'amour. Voilà, on nous dit souvent, ça fait un peu un vaudeville 2.0. C'est ce qu'on nous dit souvent.
Alibi.com 2 et avec Philippe Lachaud, notamment, est en cours de montage. Sortie déjà programmée, ce sera pour le 8 février prochain.
C'est noté. Merci Stéphane Boutsock. On passe à la petite lucarne, le plateau télé du soir préparé par Laurent Marsic. On vous retrouve. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce lundi, c'est pas bien compliqué. Il y en a pour tous les goûts, du ciné, du docu, de l'aventure.
Exactement. Côté aventure, rendez-vous sur France 5 avec un nouveau numéro de Nu et culotté. Il y en a deux numéros. Avec Nancy Moutz, deux baroudeurs qui débutent, c'est le principe, nu comme des vers, et tentent de réaliser un rêve. Celui de ce soir est un peu barré. Démarrage à poil par moins 2 degrés en Alsace. Objectif, ah oui. Rallier la Belgique pour tenter d'aller manger un chocolat avec le roi des Belges. En moins de 50 mètres en Alsace, formidable les Alsaciens. Nancy Moutz sont déjà vêtus de la tête aux pieds par deux voisins hilars.
Par contre, c'est comme le kilt en dessous, il n'y a rien ou...
Allez, on est parti vraiment sans rien.
Ah, d'accord.
Ah, super.
Génial.
C'est adorable.
En fait, le kit de kilt, ce sont des branches de sapin prélevées dans la forêt du coin. L'aventure peut débuter avec, encore une fois, plein de rencontres tendres. Ils partent d'abord en Islande, ensuite en Belgique. France 5, 21h et 21h50. Autre moment télé à voir, beaucoup moins tendre pour le coup. C'est quelque chose qui revient tous les 5 ou 7 ans autrefois. C'est le débat de la présidentielle. La chaîne parlementaire rediffuse un documentaire réalisé en 2020 qui analyse ces fameux débats très codifiés mais qui restent un exercice essentiel de la démocratie. De nombreuses personnalités politiques témoignent et racontent des anecdotes parfois peu connue, comme celle-ci. Débat en 2007 entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, émaillé, selon Ségolène Royal, d'incidents qui l'ont déstabilisé. Mmh. Le premier, au tout début du débat.
Le tirage au sort qui a été effectué tout à l'heure au siège du CSA va permettre à Nicolas Sarkozy de commencer l'exercice et à Ségolène Royal de le conclure.
C'est lui qui doit commencer. Et bizarrement, Patrick Poivre d'Arvor me passe la parole en premier.
Ségolène Royal, vous vous sentez comment ?
Très bien. Très bien d'être ici, très heureuse. Merci.
Nicolas Sarkozy.
Donc il y a une petite technique de déstabilisation. Je ne sais pas si elle avait été concoctée avec Nicolas Sarkozy.
En tout cas, elle est mal à l'aise, effectivement. Puis au moment d'un échange tendu sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, il se passe soudain ceci, raconte encore Ségolène Royal.
Est-ce que madame, c'est votre position ?
Mais il y a un processus qui est ouvert et vous le savez très bien. Et l'écran devient rouge derrière moi. Et je me suis toujours demandé, est-ce que ça avait été organisé ? Est-ce que c'était le hasard ? Et je n'ai jamais pu avoir la réponse du producteur de l'émission.
Rouge comme le drapeau turc. Un grain de sable qui déstabilise. Michel Cotta, qui co-animait avec Jean Boissonnat le débat Giscard-Mitterrand, se souvient, elle, de cette autre anecdote en 1981.
Et alors, ce qui a complètement achevé de désarçonner Valéry Giscard d'Estaing à la fin, ça a été qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que, dans ces dernières minutes de fin... Donc chacun a conclué, et à ce moment-là, Boissonnat l'a interrompu.
C'était des temps qui étaient durs et difficiles.
Il me reste moins d'une minute.
Non, il me reste, oui, moins d'une minute.
Et il a été assez désarçonné par cette interruption, et donc il a été moins bon à sa péroraison finale qu'il aurait pu l'être.
On sait que ça ne change pas une élection, mais c'est quand même assez important, face à face pour l'Élysée, ce soir et demain, 21h sur LCP, la chaîne parlementaire.
Ça a l'air passionnant. Et côté cinéma, Laurent ?
Alors, on va rester dans la politique avec un film aux 8 Oscars, Gandhi, diffusé sur Arte à 21h, du jeune avocat indien Candide au défenseur infatigable de la paix. Le film suit le parcours historique du leader politique indien. Ce film est aussi entré dans l'histoire pour avoir utilisé 300 000 figurants dans une seule scène, la scène des funérailles de Gandhi.
Quoi qu'il nous fasse, nous n'attaquerons personne. Nous ne tuerons personne. Tu as déjà été en prison ? On est battu et torturé ! Ce qu'il faut, c'est... Je vous demande de livrer un combat, de lutter contre leur colère, pas de la provoquer.
Et si vous êtes plutôt sport, avec vol plané de Romain et Bourpif à souhait, c'est pour les loupios. Double ration d'Astérix et Obélix sur W9, Astérix et les Vikings, et les 12 travaux d'Astérix, 21h, et musique signée Gérard Calvi, le papa d'Yves Calvi.
Merci Laurent Marsic, votre plateau télé toujours aussi passionnant. Dans un instant, votre météo de demain, Claire Delorme, fidèle au poste, et une deuxième édition dans RTL Soir. Victor Pourchet va bientôt s'installer à nos côtés. A tout de suite.
RTL Soir.
Claire Delorme pour la météo, demain le retour des orages.
Exactement, par l'arrivée donc d'une dégradation pluvio-orageuse qui débarquera dans la matinée par l'ouest du pays. Donc elle touchera dans un premier temps la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie. Et puis à son passage, au fil de quelques heures, eh bien, elle va investir du terrain et gagner l'est du pays. Donc ça va prendre quand même toute la journée. En attendant, à l'avant, on restera sous de belles conditions relativement ensoleillées. Les températures, elles sont pareilles, comprises entre 13 à 17 degrés en matinée. L'après-midi, entre 24 à 28 degrés pour la moitié nord, et dans la moitié sud, forcément, il fera un petit peu plus chaud, particulièrement en Méditerranée, jusqu'à 33 degrés.
Et Claire, demain, on redoute des orages particulièrement violents dans le sud-est.
Exactement, ça sera le premier épisode méditerranéen donc, de l'année, donc attendu donc, de fortes pluies. On peut attendre justement jusqu'à 100 mm en l'espace de quelques heures pour vous faire un ordre d'idée. C'est l'équivalent de 1 à 2 mois de pluie avec localement de la grêle, de fortes rafales de vent. Et donc ceci est dû notamment à cette mer chaude qui amène un air chargé en humidité. Et vu qu'on a des vents marins, eh bien, ces vents marins vont pousser justement cette humidité au niveau des contreforts des Cévennes. Et c'est pour ça qu'on va avoir des pluies non seulement stationnaires et de violents orages.
Merci Claire. RTL, il est 19h.